Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud et aujourd'hui, je vous raconte le destin du père du pop art. Andy Warhol a révolutionné l'art du XXe siècle avec des tableaux sérigraphiés aux couleurs acidulées. Plus qu'un peintre, il se voulait un roi des affaires, un artiste du consumérisme. Malgré sa réussite, l'homme derrière la façade déjantée est étonnamment mélancolique, en proie au démon de ses désirs homosexuels dans une Amérique qui peine à rompre avec son puritanisme. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui dans un récit en deux parties. Andy Warhol, Pop Art Mélancolie. Épisode 1, L'homme à la perruque blonde. Nous sommes à New York le 3 juin 1968. Andy Warhol prend l'ascenseur qui monte à son atelier, la Factory. Dans la cabine avec lui se trouve Valérie Solanas. Cette lesbienne militante, qui voue une haine profonde aux hommes, fréquente l'atelier de Warhol depuis quelque temps. Andy ne lui prête pas attention. Elle ne cesse de l'ennuyer avec un scénario qu'elle a écrit. Les grilles de l'ascenseur s'ouvrent. Andy entre dans l'atelier aux murs argentés. Plusieurs de ses assistants s'affairent déjà dans la grande pièce entre les bouteilles d'alcool vides et les traces de cocaïne sur les tables. Le téléphone sonne, Andy décroche. C'est son amie, l'actrice Viva, qui l'appelle depuis son coiffeur. Une conversation badine commence. Andy tourne presque le dos à Valérie, restée devant l'ascenseur. Elle sort un revolver de son sac et tire plusieurs fois. Andy Warhol s'écroule dans une flaque de sang. Pittsburgh, à la fin des années 1920, est une ville industrielle de Pennsylvanie. La fumée qui sort des cheminées des usines de charbon et d'acier rend le ciel encore plus gris qu'il ne l'est habituellement au nord des États-Unis. Andrei Varola est venu de Tchécoslovaquie pour vivre le rêve américain. Il travaille autant qu'il peut pour nourrir sa femme Julia et ses trois enfants. Le petit dernier, Andrew, est un peu chétif et en mauvaise santé. Il reste souvent à la maison où il se délecte de son plat préféré, la soupe à la tomate Campbell avec des sandwichs au fromage. Andrew apprend à dessiner avec sa mère. Ça occupe une bonne partie de son temps entre l'école et l'église catholique byzantine Saint-Jean Chrysostome. Il faut faire presque 10 km à pied pour s'y rendre, mais quel bonheur de s'asseoir sur les bancs, de contempler les icônes aux couleurs vives et de respirer les parfums capiteux de l'encens. C'est un peu un avant-goût du paradis. À l'adolescence, Andrew est loin d'être une star au lycée. Ses manières délicates et sa timidité maladive lui attirent l'inimitié des brutes de la classe. Mais il parvient à les amadouer en les faisant venir chez lui où il dessine leurs portraits. Flattés, mis au centre de l'attention, ces gamins paumés se sentent soudain importants. La voie d'Andrew est toute trouvée. Grâce à une bourse, il fait une école d'art. Son autoportrait, où il se met un doigt dans le nez, divise ses professeurs. C'est génial ou c'est très mauvais. En 1950, Andrew a 21 ans. Il arrive à New York avec $200 en poche et la ferme intention de devenir riche et célèbre. Il commence par se créer une identité. Il lui faut un look unique pour se démarquer. Il s'affiche avec une perruque blonde peroxydée pour dissimuler sa calvitie naissante. Il dessine des publicités pour les magazines et commence à utiliser un pseudonyme, Andy Warhol. Après la mort de son père, sa mère le rejoint et assure la logistique pour que son petit puisse se dédier entièrement à son art. Parfois, elle lui donne même un coup de main en calligraphiant ses affiches publicitaires. Ses clients adorent ce style baroque. Warhol est également sollicité pour faire des décorations de vitrines de magasins de luxe. Il dessine aussi des chaussures pour les grandes enseignes et en quelques années, sa fortune est faite. En 1960, il achète une belle maison de 4 étages dans le quartier chic de l'Upper East Side. Sa mère, Julia, occupe le rez-de-chaussée. Et lui, il organise son atelier à l'étage. Un endroit où il peut peindre ce qu'il a envie. Pas des commandes, mais des œuvres d'art. Ses neveux viennent souvent lui rendre visite. Ils les mettent à contribution pour tendre les toiles sur les cadres ou préparer des couleurs. Pendant ce temps, il peint en écoutant de la musique. Un jour, il décide de peindre la boîte de conserve rouge et blanche de son enfance, celle des soupes à la tomate Campbell. Il est repéré par l'agent artistique Émile De Antonio qui est fasciné par son travail. Andy a flairé l'air du temps. Ses œuvres sont le reflet parfait de la société de consommation. C'est justement cette société de consommation en pleine expansion qui inspire Warhol. Il estime que les affaires sont la conception la plus poussée de l'art. Il veut produire son art comme on produit des bouteilles de Coca-Cola, par série, de manière industrielle. Et ça, c'est révolutionnaire. C'est une rupture totale avec 2000 ans d'histoire de l'art où le tableau est le fruit unique d'un artisan. Warhol a l'idée de sérigraphier des photos sur lesquelles il ajoute des aplats de couleurs. Il participe à la naissance du pop art, littéralement un art populaire, simple et accessible au plus grand nombre. En 1952, sa première exposition cartonne. Sa boîte de soupe Campbell est surnommée « la Joconde de l'art moderne ». À 32 ans, Warhol a trouvé sa place chez les artistes d'avant-garde de New York. Il peint la réalité crue en détournant des unes de journaux. La mort de 129 personnes dans un crash d'avion, deux anonymes s'extirpant de la carcasse de leur véhicule après un violent accident, il va même jusqu'à s'approprier l'image de la chaise électrique de la prison de Sing Sing. Warhol peint l'Amérique et la brutalité du quotidien. Le 4 août 1962, l'actrice Marilyn Monroe est retrouvée morte à son domicile. La disparition brutale d'un tel symbole de l'Amérique inspire Andy Warhol. Il choisit quatre photos qu'il fait sérigraphier et rehausse le visage mythique avec des aplats de jaune, de rose et du rouge pour les lèvres. C'est le début d'une série d'icônes modernes avec entre autres Elvis et le couple Kennedy. En janvier 1964, Andy Warhol a 36 ans. Son succès le pousse à investir dans un atelier plus grand, sur la 47e rue. L'artiste en couvre les murs d'aluminium pour lui donner un cachet ultra-moderne. C'est la Silver Factory, littéralement l'usine argentée. Comme Warhol veut industrialiser sa production, il recrute des assistants. Ils sont souvent jeunes, très talentueux et fascinés par le maître. Warhol ne peint presque plus, il donne des ordres et supervise les créations. À la factory, Warhol s'entoure des marginaux de l'époque. Des gays assumés à moitié nus en permanence, des drag queens au physique archi-travaillé, des féministes militantes, des bourgeois décadents. Il y a de tout à la Silver Factory. La journée ? Tout le monde travaille d'arrache-pied. La nuit, c'est la fête. Les États-Unis des années 60 veulent faire voler en éclats les règles du puritanisme qui les asphyxie. Les fêtes de la factory sont déjantées. C'est sexe, drogue, alcool et rock'n'roll avec le Velvet Underground, un groupe qu'Andy a déniché dans un petit bar miteux. Alors que la fête bat son plein, Andy est souvent seul. Presque immobile au milieu de la pièce. Comme ses émotions le submergent souvent, il essaie de les faire taire en les ignorant et en restant à distance des autres. Il dit lui-même qu'il aimerait être un robot pour ne plus en avoir. Il regarde tout ce monde vivre comme un entomologiste sans réussir vraiment à prendre part à la fête. Dans toute cette foule bigarrée, il n'y a qu'une seule personne qui le touche. Jed Johnson. Jed a 20 ans de moins que lui. Il est beau comme un dieu grec. cet artiste en herbe a débarqué de sa campagne du fin fond du Minnesota pour vivre ses rêves. Il est calme, rigoureux, doux, et les deux hommes se rapprochent discrètement. Dans les années 60, aux États-Unis, on pratique encore les thérapies de conversion. L'homosexualité ne sera dépénalisée qu'en 2003. Les gays se cachent pour vivre leur idylle et se marient souvent pour avoir une vie de famille normale, aux yeux des autres. Quand ils sortent ensemble, Jed et Andy se font passer pour des amis. Seuls leurs proches connaissent leur amour. En 1965, Warhol décide de prendre un tournant dans sa carrière d'artiste. Il veut faire du cinéma, mais du cinéma expérimental. Dans l'un de ses premiers films, Kisses, on voit des couples hétéros et homos s'embrasser au ralenti en noir et blanc. C'est tellement subversif que toute la presse en parle. Personne n'avait osé montrer ainsi l'intimité des autres. Mais toutes les créations de Warhol ne sont pas des succès. Le film Empire déclenche la colère des spectateurs qui lancent tout ce qu'ils ont sous la main sur l'écran. Il faut dire qu'un plan séquence de l'Empire State Building en contre-plongée qui dure 8 heures, c'est long, vraiment très long. Alors Warhol récidive avec un film à scénario dont il confie la réalisation à Jed. Le film s'intitule Bad et montre des scènes d'une rare violence. On y voit par exemple une jeune mère excédée qui jette son bébé par la fenêtre d'un building. La caméra suit la chute du poupon qui s'écrase au sol et macule de sang une belle brune en robe jaune dont les hurlements vrillent les tympans. Le film est massacré par la critique. Warhol a beau se défendre en clamant que les spectateurs n'ont rien compris, le résultat est là. Il perd de l'argent et rend Jed responsable de cet échec. Son amant accuse le coup. Il préfère cesser de collaborer avec Andy et il lance sa propre carrière de décorateur d'intérieur. Il se fait un nom dans le métier et gère une clientèle d'Américains fortunés et célèbres. En 1968, Andy Warhol est au sommet de sa gloire, mais il sait qu'il est déjà sur la pente descendante. Un drame l'oblige à regarder ses problèmes en face. Valérie Solanas, membre de la Factory, lui tire dessus. Elle n'avait pas supporté qu'il refuse son scénario. Pour sa défense, elle dira seulement au tribunal que Warhol contrôlait sa vie. Andy ne se rendra même pas au procès. Il a passé 5 heures sur une table d'opération pour réparer ses organes perforés. Le fait qu'il se réveille après l'intervention tient du miracle. Il rentre chez lui, traumatisé, dans la belle maison qu'il partage avec Jed. Il se regarde dans un miroir. Son corps lui fait peur et il est tellement fragile. Il sera obligé de porter un corset autour de l'abdomen jusqu'à la fin de ses jours pour contenir ses organes meurtris. Mais au fond, il aime assez ses grandes cicatrices rouges et brunes. Ça ajoute une note artistique et bizarre à son image, sa propre création artistique. Pour transcender cette épreuve, il pose pour des photos le torse nu, le pantalon un peu défait pour rendre le corset bien visible. Son corps a l'air presque désarticulé, mais le visage est bien là, maigre et grêlé, sous la même perruque blonde peroxydée. Andy Warhol n'est pas mort, et il est temps pour lui de se réinventer. On murmure à New York qu'il n'est plus à l'avant-garde. De toute manière, il ne veut plus fréquenter cette faune trop dangereuse de marginaux. Maintenant, Andy veut être entouré de gens très riches. C'est pour eux qu'il abandonne la Silver Factory et se lance dans de nouveaux projets artistiques totalement inattendus. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Andy Warhol, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.